Lost Boue.
À l'intérieur du trèfle royal, vaste tente toute brodée de fleurs de lys, mais où l'on pataugeait comme ailleurs, Louis X, entouré de son plus jeune frère Charles, nouvellement fait comte de la Marche, de son oncle le comte de Valois, de son chancelier Étienne de Mornay, écoutait le connétable gaucher de Châtillon exposer la situation. Le rapport ne présentait rien d'encourageant. Châtillon, comte de Porcien et sire de Crèvecœur, était connétable depuis 1284, c'est-à-dire le tout début du règne de Philippe le Bel. Il avait vu le désastre de Courtrai, la victoire de Mont-Saint-Pével et bien d'autres batailles sur cette frontière du Nord toujours menacée, où il se trouvait pour la sixième fois de sa vie. Il avait alors 65 ans. C'était un homme de moyenne taille, bien charpenté, que les années ni la fatigue n'amoindrissaient. Son cou plissé, sortant de la cuirasse, ses paupières mi-closes et la manière qu'il avait de tourner la tête lentement de droite à gauche le faisaient ressembler à une tortue. Il paraissait pesant parce qu'il était réfléchi. Sa force physique, son courage au combat imposaient le respect autant que ses compétences stratégiques. Il avait trop connu la guerre pour l'aimer encore et ne la considérait plus que comme une nécessité politique. Il ne mâchait pas ses mots ni ne s'embarrassait de vaines glorioles. « Sire, dit-il, les viandes et les vivres ne parviennent plus à l'ost. Les chariots sont embourbés dans des fondrières à 6 lieues d'ici, et l'on casse les traits d'attelage à les vouloir sortir. Les hommes commencent à gronder de faim et de colère. Les bannières qui ont encore à manger doivent défendre leurs réserves contre les voisins. Les archers de Champagne et ceux du Perche en sont venus aux mains tout à l'heure. Et ce serait beau voir que nos soldats se livrent bataille entre eux avant même que d'avoir affronté l'ennemi. Je vais être forcé de faire pendre, ce que je n'aime guère. Mais les gibets dressés ne remplissent pas les ventres. Nous comptons déjà plus de malades que n'en peuvent soigner les barbiers chirurgiens. Ce sont les aumôniers, bientôt, qui auront gros travail. Voici 4 jours que cela dure, et qu'on ne voit point d'amélioration à l'intempérie. Encore 2 jours, la famine est déclarée, et personne ne pourra empêcher les hommes de déserter pour aller quérir pitance. Tout est moisi, tout est pourri, tout est rouillé. En matière de preuve, il secoua le camail d'acier dégouttant d'eau qu'il avait ôté de ses épaules en entrant. Le roi marchait en rond, nerveux, anxieux, agité. On entendait dehors des vociférations et des claquements de fouet.
« Qu'on cesse ce tumulte !» cria le hutin. « On ne s'entend plus !»
Un écuyer souleva la portière du trèfle. La pluie continuait de tomber, torrentielle, et formant devant l'entrée de la tente comme un autre rideau. 30 chevaux, enfonçant dans la boue jusque par-dessus les boulets, étaient attelés à un énorme tonneau qu'ils ne parvenaient pas à mouvoir.
« Où portez-vous ce vin ?»
demanda le roi au charretier qui barbotait dans l'argile.
« À monseigneur d'Artois, sire !» répondit l'un d'eux.
Le hutin les regarda un moment de ses gros yeux globuleux, hocha la tête et se détourna sans rien ajouter.
« Que vous disais-je, sire ?» reprit Gaucher. « Nous aurons peut-être à boire ce jour, mais demain, n'y comptez plus. Ah, j'aurais dû vous prier plus nettement de vous en remettre à mon conseil. J'étais d'avis qu'on s'arrêtât plus tôt. » En s'affermissant sur quelque hauteur au lieu de plonger dans ce bourbier. Monseigneur de Valois et vous-même insistiez pour qu'on allât de l'avant. J'ai craint qu'on ne me prie pour quoi et qu'on accuse à mon âge si j'empêchais l'os de progresser. J'ai eu tort.
Charles de Valois s'apprêtait à répliquer lorsque le roi demanda
« Et les Flamands ?»«
Ils sont en face de l'autre côté de la rivière, en aussi grand nombre que nous et guère plus heureux, je pense, mais plus près de leur ravitaillement et soutenus par le peuple de leur bourg. Si même l'eau vient à baisser demain, ils seront mieux préparés à nous attaquer que nous à les assaillir. »
Charles de Valois haussa les épaules.
« Allons, Gaucher, la pluie vous assombrit l'humeur, » dit-il. « À qui ferez-vous croire qu'une bonne chevauchée chargeante ne pourrait avoir raison de cette piétaille de tisserand, aussitôt que nous progresserons avec notre mur de cuirasse et notre forêt de lance, ils vont s'égayer comme moineaux. »
Le comte était superbe, malgré la boue qu'il couvrait, dans sa cotte de soie brodée d'or passée par-dessus son vêtement de maille. Et certes, il paraissait plus roi que le roi lui-même. Cousin de tout le monde, il l'était aussi du connétable, ayant en 3e noce épousé une Châtillon.